Radio Okapi. Au sommaire, ce matin, trois organisations de la société civile recommandent au président Félix Tshisekedi d'ordonner la mise en place d'une commission mixte pour examiner le partenariat Sakima Primera. Ces ONG dont l'ICOCO ne touche pas à mon cobalt et Senadep affirment avoir reçu dans ce sens des plaintes des opérateurs miniers et de la population des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Et puis, trois partis politiques s'engagent à respecter la volonté et les désidératas des Congolais contenus dans le contrat social initié par le réseau Pona Congo. Engagement pris vendredi dernier à Kinshasa à l'issue de la signature par les délégués de l'UNC, de la DIPRO et de l'Alternative citoyenne de ce contrat social intitulé Congo Tolingi, le Congo que nous voulons. L'invité de ce journal est le chef du bureau d'IPNUD à Goma, au Nord Kivu, Patrick D'Oliveira. Parle de la prévention et la réduction des risques de violence avant, pendant et après les élections. C'est au fait l'objectif d'un projet mis en œuvre par le PNUD depuis le mois dernier dans trois provinces de l'Est de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Claude Siala assure la mise en onde. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Avant d'aller plus loin, sachez que le président de l'UPC, Thomas Lubanga, Yves Kawa, cadre du MLC, tous deux anciens seigneurs de guerre en Ituri, ont vu leur candidature à la députation nationale être invalidée. Un arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu à ce sujet le 12 septembre dernier dans le cadre de l'examen du contentieux des candidatures. Rappelons que la loi électorale déclare inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des génocides. Je le disais dans les titres partenariat Sakima Primera, les organisations de la société civile qui opèrent dans les secteurs des ressources naturelles recommandent au président Félix Tshisekedi d'ordonner la mise en place d'une commission mixte. Objectif, examiner les revendications des entités administratives qui s'estiment lésées par ce partenariat. Ces ONG dont l'ICOCO ne touche pas à mon cobalt et Senadep affirme avoir reçu des plaintes des opérateurs miniers et de la population des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema dans ce sens. Henri Mouya, porte-parole de ces organisations, l'a déclaré vendredi dernier à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Les organisations et personnalités signataires formulent des recommandations suivantes. Au président de la République, garantir l'application par le gouvernement des décisions politiques qui profite au pays et qui ne laisse pas au tiers en règle avec la législation en la matière. Ordonner la mise en place d'une commission ad hoc avec implication de la société civile pour examiner au cas par cas les revendications des entités administratives et des entreprises s'estimant lésées par le partenariat Sakima Primera. Au gouvernement, spécialement au ministère du portefeuille et des mines, veiller à l'application stricte du code minier, du règlement minier et d'autres dispositions légales et réglementaires en la matière. Publier le contrat Sakima Primera Metal, les 60 jours réglementaires étant accomplis. Sinon, procéder à la révision des clauses incohérentes à Sakima et ses partenaires. Respecter les engagements pris avec tous les acteurs concernés et se conformer au code et règlement minier.
Et toujours vendredi dernier à Kinshasa, en marge de la rentrée parlementaire, l'ASBL Congo et Nyanya a organisé une manifestation au Palais du Peuple dans le but d'alerter les élus du peuple sur le danger des 25 ans de monopole de fait accordé selon elle à l'entreprise arabe Primera Group RDC. Pour cette association, l'Assemblée nationale doit interpeller le gouvernement afin d'obtenir la révisitation du contrat Sakima Primera qui, toujours d'après la même source, défavorise la RDC et les autres exploitants congolais de l'or dans le Sud Kivu. Le coordonnateur de Congo Inyanya invite donc l'Assemblée nationale à programmer en urgence la question orale avec débat du député Alfred Maïcha qui dénonce le caractère léonin de ce contrat signé entre Sakima et Primera Gold. Moïse Mweneka Songo est au micro de Merveille Assani.
Nous attendons beaucoup de l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir l'issue significative sur cette question-là des monopoles et de l'exonération qu'on a attribuée à Primera à celle sans les autres. Parce que nous avons plusieurs sociétés qui sont dans les secteurs, mais malheureusement, il n'y a que la société étrangère où on a trouvé qu'on pouvait attribuer les monopoles, l'exonération, parce qu'ils payent moins que les autres, alors que notre code minier interdit cela. En tout cas, notre préoccupation est qu'on puisse, il puisse y avoir révisitation de ces contrats que le gouvernement, au travers SAKIMA, avait signé avec les Émirats arabes et avec leur société Primera Gold Metal. Parce que nous-mêmes et l'honorable Maïcha même a sorti au moins le minimum de 5 articles qui n'ont pas été vraiment favorables à notre souveraineté. Ça n'a pas été au bénéfice de la population. Ces 5 points, si on les élague et qu'on revisite les contrats, nous en tout cas, nous serons satisfaits.
Et puis, journée mondiale du nettoyage, c'était hier samedi 16 septembre. Ici à Kinshasa, l'entreprise Kintoko du groupe Angel, en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas en RDC, a organisé une opération de ramassage des bouteilles en plastique. Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angel, explique que ce geste a consisté à appuyer l'opération Kinbopeto, un programme de l'hôtel des villes de Kinshasa. Les explications avec Paul Matendo.
Une équipe composée du personnel de l'ambassade des Pays-Bas en RDC, de Kintoko, une usine spécialisée dans le recyclage des plastiques et du ministère de l'Environnement s'est déployée sur le boulevard du 30 juin pour ramasser les plastiques. Pour Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angel, toutes les bouteilles ramassées seront recyclées par son entreprise.
Nous, au niveau de Kintoko, l'usine Kintoko, nous recyclons ces bouteilles. Donc il faut les ramasser, ça constitue également une source de revenus.
Angel Soumoura, ambassadrice des Pays-Bas, estime que ces gestes représentent un espoir pour l'avenir de la jeunesse congolaise.
Cette journée présente pour moi l'espoir de la jeunesse congolaise. Je pense que ce qu'on peut ramasser maintenant, on contribue déjà beaucoup pour l'avenir.
Hervé Moukouette, du ministère de l'Environnement, l'un des ramasseurs, appelle la population congolaise à prendre conscience du danger que représentent ces déchets.
Les plastiques jouent un rôle aussi néfaste par rapport à l'environnement et on doit les gérer comme il se doit, pas les jeter partout.
Cette opération s'est déroulée du pont d'Ag Armadjok dans la commune de Ngaliema à la gare centrale dans la commune de la Gombe.
À cette même occasion, à Goma, au Nord Kivu, l'ONG Appuie aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable a révélé que l'incinération des déchets plastiques détruit la couche d'ozone et en même temps constitue une menace pour la santé des communautés. La synergie des luttes contre la pollution du réseau Africa Coal Network, dont l'AICED, en a profité pour plaider auprès des autorités provinciales pour l'application des dispositions légales sur la gestion des déchets plastiques. Faustin Nyeboné, directeur exécutif national de l'AICED, donne ici quelques propositions au micro de Denis Loukesso.
Nous avions proposé d'abord à la mairie d'appliquer toutes les dispositions qui interdisent la commercialisation, l'usage et même l'importation des emballages plastiques. Alors pour que cette recommandation soit applicable, il faut faire la promotion des emballages de substitution, c'est-à-dire les emballages biodégradables. Alors il faut même exonérer les matériels qui entrent dans la fabrication des emballages biodégradables. Et là, ça sera maintenant à la portée des communautés et à moins cher. Et au niveau de la FEC, nous avions recommandé que la FEC puisse quand même sensibiliser les commerçants. Parce que ce sont ces commerçants qui continuent à faire le commerce des emballages plastiques. Et à la population, nous avions recommandé d'avoir des comportements responsables. Il faut vraiment, vraiment éviter d'incinérer les déchets plastiques, ne pas les utiliser comme combustible. Et si on utilise ça, effectivement, vraiment, on va protéger la couche d'ozone qui nous protège aussi et nous allons nous épargner des maladies inutiles.
Je le disais dans les titres, les partis politiques UNC de Vital Kamerhe, DIPRO de Constant Moutamba et Alternance Citoyenne d'Anzuluni Floribert s'engagent à respecter la volonté et les desiderata des Congolais contenus dans les contrats sociaux initiés par les réseaux Pona Congo. Engagement pris vendredi dernier à Kinshasa à l'issue de la signature par leurs délégués du document intitulé Congo Tolingi, entendez les Congos que nous voulons, qui, selon le directeur du CEPAS, concilie la gouvernance politique aux valeurs morales. Pour les coordonnateurs du réseau citoyen Pona Congo, ce contrat social est une démonstration pour les acteurs politiques qu'ils s'engagent à répondre aux préoccupations des Congolais. Des détails de Fulbert Balolagi.
Pour le directeur du CEPAS, il y a un certain nombre d'engagements à prendre si les Congolais veulent que le pays se développe. Père Alain Nzadi Anzadi.
Concilier politique et valeur morale. Une nouvelle manière de faire la politique au Congo qui met la nation à l'avant, qui met le peuple au devant de toutes les ambitions politiques.
Qu'est-ce qui est demandé effectivement aux politiciens congolais et que contient ce contrat social? Réponse de Georges Héritier Opombo, membre de Pona Congo.
Nous passons à la culture de la responsabilité des acteurs politiques vis-à-vis du peuple. Il y a dans le contrat social des priorités de la population. Il y a des questions de bonne gouvernance. Il y a la question du leadership politique responsable. C'est le défi qu'il faut relever. Il y a la question de la sécurité. Il y a la question de la corruption.
Mais alors, pourquoi les politiques ont ratifié ce contrat? Maître Olivier Kabuya est secrétaire exécutif national du Parti Alternative Citoyenne.
Nous sommes un parti jeune, issu de mouvements citoyens, capable de récupérer ce désirata de la population et le porter haut au sein des essences nationales de notre pays.
Après la récolte des préoccupations des Congolais, il était question qu'à la veille des élections, qu'un contrat social soit présenté à tous les candidats.
Notez que la sensibilisation à la signature du contrat social Congo-Tolingi continue au centre d'études pour l'action sociale. Se passe ici à Kinshasa. Les politiques y passent les uns après les autres pour signer leur adhésion et le ratifier en signe de leur engagement envers le peuple congolais. Clôture vendredi dernier à Lubumbashi de la 12e session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie. Pendant 5 jours, les deux délégations ont passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut entre les deux États. À l'issue de travaux, les participants ont pris un certain nombre de résolutions pour non seulement raffermir les relations, mais aussi pour renforcer la sécurité le long des frontières communes. Les deux parties ont été représentées respectivement pour la RDC par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières Peter Kazadi, et pour la Zambie par le ministre de la Défense Ambrose Lufuma. Un reportage de Jean Gandou, rendu par Jacques-Yves Molima.
Ces travaux ont commencé depuis le 11 septembre dernier avec les experts de ces deux pays avant que les deux ministres et chefs de délégation ne viennent endosser les résolutions par la signature des documents. La RDC a à cette occasion félicité la Zambie pour son accession à la présidence de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la communauté de développement de l'Afrique australe et a sollicité du président zambien d'obtenir de la SADC la mise en œuvre de la résolution relative au déploiement de la force de la SADC en RDC. Pour sa part, la Zambie a assuré la RDC de son engagement à soutenir les efforts déployés par la SADC pour trouver une solution durable aux problèmes de sécurité rencontrés dans la région et dans la partie orientale de la RDC. La Zambie a aussi félicité la RDC pour son engagement à promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs et a salué les efforts fournis pour réduire les embouteillages et assurer la fluidité du flux des marchandises au poste frontalier de Kasumbalesa. La commission a aussi salué les initiatives prises par ces deux États pour améliorer leurs économies, entre autres pour la création notamment des zones économiques. Elle a aussi réaffirmé sa volonté de voir les deux nations poursuivre la coopération entre elles pour améliorer le bien-être de leurs populations respectives.
Notons par ailleurs que quelques résolutions prises lors de la 11e session de la commission permanente mixte souffrent encore de non-exécution. Ainsi, l'appel a été fait au ministre de la Défense et de la Sécurité de ces deux pays de veiller pour que ces résolutions et celles qui viennent d'être prises soient mises en œuvre. Enfin, la 13e session de la commission permanente mixte aura lieu l'année prochaine en terre zambienne et la date sera déterminée par voie diplomatique. Dans les territoires des Béni, en bref, le secteur des Rwenzori a un nouveau chef administratif depuis jeudi dernier. Il s'agit déjà fait Kasereka Mapati. La population du secteur des Rwenzori attend du nouveau chef de secteur la mise en place de mécanismes de renforcement de la sécurité en vue du développement de cette entité secouée par l'insécurité due à la présence des différents groupes armés. Dans la province de l'Ituri, les conflits armés qui endeuillent les territoires des Djougou depuis de nombreuses années ont un impact négatif sur la promotion de la culture. Des groupes ethniques qui se fréquentaient ne les font plus à cause de l'insécurité qui persiste dans cette province. Le révérend Léopold Pilot, notable balai, qui le dit, cite à titre illustratif des manifestations culturelles des danses traditionnelles qui étaient organisées à une certaine époque entre les Lendou et les Emma. Selon lui, ces deux peuples se rendaient visite mutuellement lors de tristes événements ou autres cérémonie culturelle. Il plaide pour le retour rapide de la paix afin de voir les filles et fils de cette entité territoriale renouer avec la solidarité et le vivre ensemble qui ont toujours caractérisé ces deux peuples depuis longtemps. Ces propos ont été recueillis par Jean-Claude Lokidile.
Parce qu'à dire vrai, avec perte de cette manière où on se communiquait dans l'amour, dans l'harmonie, la sincérité, la franchise a perdu son sens. Donc ça tue notre culture. Et c'est pour cette raison que nous avons toujours voulu demander à nos compatriotes, à nos frères et sœurs de Djougou, revenons vraiment dans la manière que nos ancêtres nous ont enseigné de vivre, dans la fragilité, dans l'amour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait qu'on fasse la même chose? Et vous verrez que quand on organisait par exemple un Libé ou un Zi, c'est tout le monde, toute tribu confondue, qui y venait. L'autre venait seulement à spectacle pour voir comment les choses évoluent. Et donc, si on pouvait revenir à cela, je crois que certaines mentalités devaient être changées. Parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas l'autre comme un ennemi. C'était faire un problème à qui nous devons apporter notre secours.
Actualité internationale.
Guerre au Soudan, une situation humanitaire alarmante dans la ville tchadienne d'Adré. Le conflit soudanais ne baisse pas en intensité. En 5 mois, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées par les combats. Parmi elles, 420 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad voisin. 15 jours de crise à l'université de Comores, c'est suite à une grève illimitée déclenchée par le syndicat, celui des enseignants et du personnel administratif.
L'invité.
Prévenir et limiter les risques de violence avant, pendant et après les élections, c'est l'objectif du projet que le PNUD met en œuvre depuis le mois dernier dans 3 provinces de l'Est de la RDC. Il s'agit des provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri. Notre invité, le chef de bureau du PNUD à Goma, Patrick D'Oliveira, répond dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Patrick D'Oliveira, bonjour.
Bonjour madame.
Le PNUD met en œuvre depuis le mois dernier un projet d'appui aux élections. Dans quel cadre se situe ce projet?
Comme vous le savez très bien, des élections pacifiques, civiques et inclusives sont la base de toute nation qui se veut démocratique. Elles sont une étape clé dans la consolidation du contrat social entre les gouverneurs et les gouvernés. Elles fournissent aussi l'opportunité à la citoyenneté de s'engager dans la chose publique, de façonner leur avenir et déterminer l'ordre de priorité des sujets qui intéressent la communauté au premier chef. Donc de façon globale, on peut resituer un peu cet appui dans ce cadre global et de dire que lorsque les processus électoraux sont réussis, ils offrent un moyen efficace de canaliser les conflits sociaux en un débat respectueux et constructif. Comme vous le savez, nous sommes dans une région qui est enclin au conflit. Et des élections crédibles aussi permettent d'établir des règles communes pour élire des représentants du peuple habilités à servir dans toutes les institutions de l'État. Cependant, dans nos pays en développement, surtout en Afrique, les cycles électoraux peuvent aussi constituer une source de conflit, mettant en péril les avancées du développement. Et ces risques sont d'autant plus prononcés dans les démocraties émergentes ou les sociétés en situation de post-conflit, comme nous avons le cas en RDC. Donc, l'appui du PNUD va de façon globale dans ce cadre, et comme vous le savez, le PNUD a toujours été un premier partenaire de choix pour la RDC en matière d'appui au cycle électoral. Donc, nous ne sommes pas dans une dynamique d'appui à des processus isolés, mais beaucoup plus à tout le processus, au cycle lui-même électoral. Et donc, ce projet, parmi tant d'autres, rentre dans ce cadre et cherche vraiment à consolider ses acquis et à permettre à la RDC de disposer d'un cadre, d'un environnement propice pour planter les jalons du processus de développement déjà en cours.
Et de manière spécifique, quels sont les objectifs de ces projets?
Ce projet est mis en œuvre grâce au financement du gouvernement japonais et le PNUD avec l'appui de la CENI et de toutes les autres parties prenantes qui sont dans l'organisation de ce processus électoral ont développé cet appui pour vraiment venir adresser ces questions aux zones qui sont vraiment fragiles et touchées par les conflits à l'est de la RDC. Et ce projet, comme vous le demandez, vise à prévenir et limiter les risques de violence avant, pendant et après les élections et à faciliter un processus électoral inclusif et équitable pour les femmes, les hommes et les jeunes filles et les garçons congolais. Dans son ensemble, on peut retenir que le PNUD travaille avec tous les partenaires que j'ai dit et la CENI en premier lieu à ce que les élections de 2023 en RDC ne soient pas une source de conflit et permettent de poser les bases d'une paix et d'un développement durable dans le pays.
Et dans le cadre de ces projets que vous venez de commencer, vous venez de terminer un atelier de formation de 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette activité, cet atelier?
L'atelier d'aujourd'hui vise à renforcer les capacités des mécanismes communautaires et des institutions en charge de la protection civile dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, dans leur rôle d'alerte précoce et de réponse rapide aux risques de violence, de conflits et de catastrophes qui peuvent survenir et influencer négativement le processus électoral. Nous sommes en train vraiment de travailler à dynamiser et à rendre opérationnel le système d'alerte précoce qui doit jouer un rôle clé dans la tenue des élections pacifiques, comme vous le savez. En effet, ce système national permet d'identifier les signaux avant-coureurs de violence à la source et de lancer des réponses rapides afin de prévenir toute montée de tension dès le premier signal.
Après cet atelier, quelle est la suite des activités de ces projets?
Ceci n'est qu'une activité qui s'inscrit dans tout ce que je viens de dire dès le début. On doit rester focus sur le résultat qui est attendu. Effectivement, tout le processus doit être déployé par la suite. Après cette formation qui est en train d'être menée, ces observateurs communautaires, qui sont des formateurs, devront restituer au niveau de leur base les acquis de la formation afin qu'à leur tour, ils puissent contribuer à limiter les risques de violence en partageant les alertes vérifiées avec les autorités compétentes. Et ces restitutions dans les zones les plus reculées, des trois provinces qui sont appuyées, seront déterminants afin que l'ensemble du système d'alerte précoce puisse jouir du même niveau de formation et d'expertise.
Monsieur Patrick d'Oliveira, merci.
Et notre invité, le chef de bureau du PNUD à Goma, Patrick d'Oliveira, s'entretenait avec Rosalie Zawadi. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.